Nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Davet pour le traditionnel rendez-vous de l'espace avec le ciel d'avril 2023. Bonjour Stéphane.
Bonjour Victor.
Alors pour l'astronomie, à partir du mois d'avril, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'on a eu ce changement d'horaire le week-end passé, donc le soleil va se coucher beaucoup plus tard.
Alors oui, en effet, le soleil se couchera à 20h et donc on pourra commencer à observer le ciel aux alentours de 20h30, disons, 9h moins quart.
Au niveau de la luminosité, on dit qu'on peut mieux observer les astres l'hiver parce qu'il y a moins de luminosité. C'est vrai que quand on va sur le printemps et l'été, c'est plus compliqué.
Ah bah oui, parce que là, on parle de 20h pour le coucher du soleil, mais l'été, quand on est au solstice d'été, eh ben on arrive à des fois jusqu'à 10h le soir, 9h30, 10h le soir. Et donc, ça veut dire que si on veut vraiment pouvoir observer le fond de ciel, ça commence que vers les 11h. Et puis après, le soleil se relève de l'autre côté, aussi très tôt finalement, et donc la nuit est beaucoup plus courte qu'en hiver.
Donc on va vers une période moins favorable aux astronomes.
Exactement, moins favorable, en tout cas en termes de temps d'observation du ciel.
La pleine lune, toujours au début du mois.
Exactement, donc de nouveau, on est autour du 6 du mois. Et puis avec une nouvelle lune qui se déroulera aux alentours du 20, ce qui signifie que le 20 du mois d'avril, on aura la nouvelle lune, ça veut dire que la lune est noire. Donc c'est là que ça sera le plus optimal, entre guillemets, pour observer le ciel profond.
Au niveau des planètes ?
Alors au niveau des planètes, ben, le bal de Jupiter et Saturne est terminé. Hein. On ne peut plus observer ces planètes, elles se couchent... En même temps, grosso modo, que le soleil se couche, d'une certaine manière. Donc, ça veut dire que, on ne peut malheureusement plus les observer.
Donc, elles vont en direction, elles sont derrière le soleil.
Voilà, en fait, Saturne a déjà un petit peu passé. On en parlera tout de suite. Saturne est observable de nouveau maintenant le matin, mais très, très tôt, juste avant le lever du soleil, durant le mois d'avril.
Donc, Jupiter et Saturne, ça veut dire que pour quelques mois, on ne les verra plus.
Voilà, en tout cas pas durant la nuit. Il faudra parfois avant l'aube ou bien juste après le crépuscule. Mais disons qu'elle est en pleine lune, elles seront absentes. Par contre, évidemment, si vous regardez certains télescopes assez puissants qui peuvent observer même la journée, alors comme elles sont près du Soleil entre guillemets, ces planètes, pendant la journée, on pourrait les observer. D'ailleurs, il y a certains télescopes où on peut pointer le Jupiter et on voit Jupiter à travers le ciel bleu en fait. Si c'est un télescope qui est suffisamment grand pour capter assez de lumière pour les observer.
Mais à l'œil nu, le seul astre qu'on peut voir la journée, c'est outre le soleil, c'est la lune.
C'est la lune, exactement. Notamment au premier quartier, quand le soleil il est en train de se coucher, il y a la lune qui est déjà présente dans le ciel.
Vénus, donc toujours visible.
Vénus, alors oui, alors Vénus sera visible durant tout le mois d'avril et encore quelques temps encore après, au crépuscule, donc au magnifique spectacle d'observer l'étoile du soir.
Donc elle ne bouge pas beaucoup dans le ciel ?
Alors elle ne bouge pas beaucoup dans le ciel parce qu'elle est proche de son élongation maximum et donc la position de la Terre aussi qui tourne autour du Soleil fait que cet astre va être visible, donc Vénus, pendant assez longtemps de ce côté-là du Soleil finalement.
Pour faire simple, on tourne plus ou moins à la même vitesse.
Pas tout à fait quand même parce qu'on rattrape Vénus en fait quand on se déplace en orbite, quand la Terre se déplace autour du Soleil. Mais c'est vrai que là, les effets font qu'on peut observer un peu plus longtemps Vénus qu'une autre planète.
Donc un mois relativement pauvre pour les planètes.
Oui, et puis il y a toujours Mars donc, qui est visible également. Elle est toujours visible déjà durant la nuit. On peut l'observer assez facilement. Elle est toujours à peu près au milieu du ciel, aux alentours de minuit, 1h du matin.
Un peu rougeâtre, oui.
Un peu rougeâtre, oui.
Les constellations.
Alors, dans les constellations, on a... les constellations tournent aussi, hein, les saisons se changent, donc on a des constellations qui changent également. On a maintenant au sud, aux alentours de 22h, on a le Cancer qui se trouve assez haut dans le ciel, avec son étoile principale qui est Accubens.
C'est une forme de crabe.
Alors, et voilà... comme d'habitude, les constellations, elles ont toute une forme, qui a une représentation, une illustration. C'est toujours difficile dans le ciel de dire « Ah, là, je vois un crabe » ou « Ici, je vois une déesse ».
Ouais, c'est pas Cassiopée
voilà.
avec le W ou
voilà, c'est pas aussi flagrant. Et puis, les étoiles sont assez faibles aussi dans cette constellation, quand même, faut le dire. Par contre, il y a des objets intéressants qu'on peut observer dans cette constellation, notamment un amas d'étoiles ouvertes qui est très, très riche, un des plus riches du ciel sous nos latitudes, c'est M44, donc le 44e objet du catalogue de Messier, qui est le catalogue le plus connu et le plus simple à observer dans le ciel. Et cet objet, ça s'appelle la ruche, mais on l'appelle aussi la crèche. C'est environ 1000 étoiles qui sont toutes serrées les unes derrière les autres, qui sont nées en même temps dans le même gros nuage de gaz et de poussière et qui a formé cette magnifique amas d'étoiles. On appelle ça un amas d'étoiles ouvert.
Pourquoi ouvert ?
Simplement parce que ça résulte du collapse d'un énorme nuage de poussière et de gaz. Et toutes ces étoiles sont nées en même temps. Alors que ce qu'on pourrait appeler un amas globulaire, les étoiles sont encore beaucoup plus serrées, mais c'est un objet qui se trouve dans le halo de notre galaxie. C'est des objets beaucoup plus lointains que les amas d'étoiles ouverts, en fait.
Donc des étoiles qui sont relativement jeunes.
Exactement, donc tous ces amas d'étoiles sont forcément des étoiles jeunes, parce qu'après avec le jeu des rotations de toutes ces étoiles autour du centre galactique, elles vont gentiment s'éloigner les unes des autres et au bout d'un moment, il n'y a plus d'amas. Ces étoiles vivent leur vie seule et puis elles se déplacent dans la galaxie.
Donc une pouponnière d'étoiles.
Exactement, comme on en avait parlé déjà avec Orion et la fameuse grande nébuleuse d'Orion en fait.
D'autres constellations ?
Oui, alors il y a d'autres constellations un peu moins connues. Il y a l'Hydre femelle et puis la constellation de la Boussole. La Boussole, c'est une constellation déjà du sud, parce que voilà, donc l'équateur céleste monte dans le ciel et on commence à voir à l'horizon des constellations qui en fait sont des constellations du sud que les explorateurs, quand ils ont été conquérir les pays du sud, quand ils se sont déplacés sur l'océan Pacifique notamment ou dans l'Atlantique en direction de l'Afrique, on peut observer dans le ciel et on leur a donné des noms qui ne sont pas du tout des noms liés à la mythologie. Finalement, quoique on a introduit cette boussole, elle fait partie de ce qu'on pourrait appeler le grand navire Argo. Alors on a aussi les voiles, la poupe, la proue et notamment cette fameuse boussole.
L'hydre, c'est quand même un nom. Donc il y a l'hydre femelle et la boussole. La boussole, c'est un nom qui est récent. L'hydre, c'est quand même un nom grec.
Oui, alors absolument. L'hydre, effectivement, l'hydre femelle.
Au niveau des phénomènes astronomiques intéressants.
Alors dans les phénomènes astronomiques intéressants, on parlait des planètes, on parlait des planètes en disant que c'était un mot assez pauvre. Il y a quand même un moment intéressant pour les planètes, c'est Mercure. On parle souvent de cette planète la plus proche du Soleil, très difficile à observer. Durant ce mois d'avril, autour du 8 et du 11, on va pouvoir vraiment l'observer. C'est le moment, je dirais, dans l'année, le plus propice à l'observation de cette planète, parce qu'elle a atteint son élongation maximum à ce moment-là, le 11 en fait. Donc c'est là, si vous voulez, une fois observé Mercure, je pense que c'est cette période-là, à l'aube, qu'il faudra observer cette planète.
Donc en direction du lever du soleil.
Exactement, direction du lever. Juste avant que le soleil se lève, essayez d'observer dans l'aurore un objet un petit peu brillant, un point brillant assez proche de l'horizon, ça sera Mercure.
Plutôt en montagne, hein ?
Alors pour nous oui, parce que depuis la plaine...
Ouais, et puis aucune chance.
Avec les montagnes, il faudrait presque avoir un horizon. Donc il faudrait être assez haut pour pouvoir avoir un horizon, sinon il faut se déplacer en plaine. Mais en pleine Suisse, dans le plateau suisse, pour essayer de pouvoir observer cet objet.
Donc les gens qui font de la montagne entre le 8 et le 10 au matin, ils peuvent espérer voir cette planète.
Voilà, exactement.
Un rapprochement entre Lune et Saturne.
Oui, alors de nouveau, on parlait des planètes. Et ben voilà, Saturne, elle repointe un petit peu son nez le matin. On l'avait perdu de vue la nuit. Elle se lève le matin, juste avant le soleil. Hein, on est à 6 heures du matin. Et puis, il y a un joli rapprochement entre la Lune et cette planète. Le 11.
Ceux qui veulent repérer donc, cette Saturne, qui ne savent pas la repérer, simplement le 16, regardez, à côté de la Lune, il y a Saturne.
Exactement.
Relativement brillante.
Oui, effectivement.
Une éclipse totale aussi.
Oui, alors j'ai une éclipse totale, ça ne sera pas en Suisse, malheureusement, mais ça vaut la peine quand même de le dire. C'est aussi un des grands événements quand même de l'année, cette éclipse totale de soleil qui aura lieu en Australie. Donc, elle n'est pas du tout observable dans notre hémisphère, mais étant donné que ces éclipses totales, souvent, elles tombent soit dans le Pacifique ou dans l'Atlantique ou sur des océans, finalement, c'est assez intéressant de le préciser, puisque peut-être que certains de nos auditeurs iront faire un petit voyage, peut-être durant les vacances, le 20, éclipse totale de soleil. En Australie.
Pourquoi on en parle tout le temps des éclipses totales ou partielles du Soleil ? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose de un phénomène astronomique rare ou est-ce que c'est très intéressant pour les astronomes ?
Alors c'est un petit peu des deux. Alors c'est pas si rare que ça, mais quand même, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu observer une éclipse totale de Soleil.
À part Tintin en tout cas.
Ou alors on se déplace. Il y a des chasseurs d'éclipses totales de Soleil qui font toutes les éclipses totales de Soleil possibles. Et puis, c'est quand même un phénomène assez extraordinaire. Quand on regarde pendant une éclipse totale de soleil, on voit en fait ce qu'on appelle la couronne solaire, qui n'est pas visible en temps normal. Et vraiment, ça fait comme si on avait un œil qui nous observait depuis le ciel. Ça, c'est quand même un phénomène impressionnant. Ça vaut la peine, je pense, une fois dans sa vie, d'aller observer une éclipse totale de soleil.
On peut le voir dans un centre astronomique. Par obscuration du soleil.
Oui, alors mais c'est pas quand même pas la même chose de regarder ça à travers un instrument qui simule une éclipse. D'ailleurs, c'est comme ça que on a étudié la couronne solaire. Au début, c'était grâce aux éclipses totales, mais on a assez vite construit des appareils qui permettaient de simuler cette éclipse. Mais c'est pas du tout la même sensation que de voir arriver une ombre à l'horizon et puis tout d'un coup il fait nuit en pleine journée. C'est quand même c'est assez phénoménal. Il y a des tas de phénomènes qui se produisent. Il fait tout d'un coup beaucoup plus froid. Il y a un vent qui commence à souffler. On voit les animaux qui commencent à croire que c'est la nuit, donc les oiseaux vont se coucher. Enfin, se coucher. On sent qu'il y a une ambiance tout à fait particulière.
D'accord. Et aussi des étoiles filantes, toujours.
Oui.
Pour ça qu'il y avait qu'en août, puis apparemment.
Mais en fait, les étoiles filantes, il y en a toute l'année, en fait.
Et donc là, le 22 à 18h.
Alors, c'est pas 18h. C'est 18 par heure, c'est le taux horaire du nombre de ces étoiles filantes, donc c'est en moyenne à peu près 18 par heure. Ça peut paraître pas beaucoup, mais les Lyrides sont assez connus pour être des étoiles filantes assez brillantes, et donc ça peut être un joli spectacle si on se met sur son transat dans le jardin, avec une bonne veste encore, au mois d'avril, il faut encore se couvrir un tout petit peu, mais regarder à peu près le milieu du ciel vers le zénith et là on pourrait observer un certain nombre de ces étoiles filantes.
D'accord, donc coucher la tête en l'air.
Exactement.
Tout simplement.
Tout simplement.
Et donc chaque 3 minutes, il y en a une qui passe.
Grosso modo, voilà, c'est en moyenne, tout d'un coup il peut y en avoir deux de suite et puis après plus rien pendant 5 minutes, ça dépend quoi.
Et le week-end passé, on a une grosse étoile filante qui a passé, qui s'appelle 2023 DZZ ou DZ2, donc un astéroïde qui a passé entre la Lune et la Terre,
oui.
Entre 40 et 100 mètres, qui est appelé City Killer. Il faut qu'on s'inquiète.
Absolument. Non, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est des phénomènes qui sont assez rares quand même. Ici, elle, en plus, elle ne frappe pas la Terre, c'est qu'elle passe entre la Terre et la Lune. Alors, ça peut paraître assez impressionnant, mais il y a quand même 380 000 kilomètres entre la Terre et la Lune, donc il y a la place de faire passer pas mal de choses. Ces astéroïdes, City Killer, ça veut dire que c'est pas la fin de l'humanité, c'est simplement, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais grosso modo, la taille d'une ville qui est détruite, d'une certaine manière. Alors, c'est déjà rare que ça percute la Terre, c'est encore plus rare que ça soit dans une zone habitée. On a peut-être tous encore le souvenir de cet astéroïde qui était passé au nord de la Russie,
oui, oui.
Qui avait fait exploser, exactement, qui avait fait exploser les vitres à des kilomètres à la ronde parce qu'il avait, en pénétrant l'atmosphère, ça avait fait une onde de choc phénoménale. Et puis, en fait, on a retrouvé les débris de cet astéroïde. Il y en a assez peu qui sont tombés, qu'on a pu récupérer.
C'est une zone habitée, oui.
Alors, Alors voilà, disons que c'est quand même une zone, c'est un des astéroïdes sur une zone habitée qui atterrit ces 20 ou 30 dernières années. Il n'y en a pas tant que ça finalement.
Donc pas d'inquiétude, même si on le découvre simplement un mois à l'avance et puis qu'il y a eu toutes des théories, notamment avec Apophis en disant... Enfin...
Alors on n'est pas à l'abri évidemment, je veux dire un coup de pas de chance... après des astéroïdes qui font plus que... Là, c'est un astéroïde qui faisait entre 50 et 100 mètres de diamètre. Ça paraît encore assez petit. Ça peut arriver qu'on ne les voie pas. Mais après, si on prend alors des astéroïdes qui pourraient amener à la fin de l'humanité, ça, c'est déjà des astéroïdes beaucoup plus gros, de plusieurs centaines de mètres. Ceux-là, on les a assez bien cartographiés. Normalement, on ne devrait pas avoir de surprise tout d'un coup de se dire dans 3 semaines, on a un astéroïde de 1 km qui nous arrive dessus. C'est pas impossible, mais c'est fort peu probable. Quand
alors,
même.
Ça fait marcher la science-fiction, mais on est à l'abri. Merci beaucoup, Stéphane.
Mais avec plaisir, Victor.
Et au mois prochain.